VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Deuil national de 3 jours au Mali en hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré. La situation est confuse au Sahara occidental après des échanges de tirs entre l'armée marocaine et le Polisario. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est en visite à Paris. Les laboratoires Moderna annoncent eux aussi avoir un vaccin efficace à plus de 90%. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les autorités maliennes ont déclaré un deuil national de 3 jours sur tout le territoire national, commençant aujourd'hui après le décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré. À l'appel de plusieurs groupes politiques et de la société civile, une marche pacifique sera organisée aujourd'hui et demain à Bamako pour rendre hommage au défunt président. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
C'est à bord de l'avion présidentiel que la dépouille d'ATT a été rapatriée de la Turquie. C'était le samedi dernier, aux environs de 4h du matin, sur le tarmac de l'aéroport international de président Modibo Keïta, il y avait le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui avait à ses côtés le premier ministre, certains membres du gouvernement, des personnalités politiques, mais aussi une foule de grands jours était de cette cérémonie pleine d'émotions. Aucune intervention officielle, la dépouille après le recueillement de cette certaines personnalités ont pris la direction de la ville de Bamako. Dans la foulée de cette disparition, le président de la transition Bandaou a décrété un deuil national de 3 jours qui a commencé ce lundi à partir de 0h. Avant les obsèques nationales prévues pour ce mardi, ce matin, un cortège funèbre a été organisé par la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali. Ce cortège est parti de l'Institut Marchou en passant par le monument de l'indépendance au niveau du boulevard de l'indépendance avant de revenir sur la chapelle ardente du génie militaire où doit se dérouler demain les obsèques nationales du président Amadou Toumani Touré, décédé en Turquie le 10 novembre dernier. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À 6 jours du scrutin, c'est la dernière ligne droite pour la campagne présidentielle au Burkina Faso. Face à Roch Marc-Christian Kabore, chef d'État sortant et favori, 2 candidats de l'opposition sont également en bonne position. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a terminé deuxième en 2015, et le candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, Eddy Kombouigo. Rendez-vous en deuxième partie de cette édition pour un reportage de notre correspondant sur place. La situation au Sahara occidental reste confuse alors que l'agence officielle marocaine MAP et le Polisario ont fait état de tirs le long du mur scindant le territoire disputé après l'annonce vendredi d'une rupture du cessez-le-feu de 1991 par les indépendantistes sahraouis. Nathalie Barge.
Depuis vendredi, le Polisario, soutenu par l'Algérie, multiplie les annonces de combats le long du mur de sable de 2700 kilomètres qui démarque les 2 camps et affirme mobiliser des milliers de volontaires. La MAP a repris dimanche soir les informations d'un site non officiel dédié aux forces armées royales, affirmant que depuis le 13 novembre, le Polisario a effectué des tirs le long de la ligne de défense. L'armée marocaine a riposté, occasionnant la destruction d'un engin porte-armes au niveau de Mabès, près de la frontière algérienne, selon le forum militaire Phare Maroc. Le mouvement indépendantiste a décrété l'état de guerre vendredi après une opération de l'armée marocaine pour rétablir le trafic routier avec la Mauritanie au poste frontière de Guerguerat où les camions étaient bloqués depuis 3 semaines. Pour le Polisario, cette intervention a sonné la fin du cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Tandis que les Marocains se disent attachés à son respect. Des négociations impliquant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont au point mort depuis 2019.
En Tunisie, les discussions se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute hier dimanche entre les 75 délégués libyens de tous bords, rassemblés depuis une semaine à l'invitation de l'ONU en l'absence des principaux protagonistes. Mais ils ne sont pas parvenus à un accord sur les noms de leurs futurs dirigeants. Ces délégués reprendront les discussions dans une semaine, signe de la difficulté à sortir le pays d'une décennie de conflits. En Éthiopie, diverses médiations tentaient de s'organiser aujourd'hui pour faire cesser le conflit qui oppose depuis le 4 novembre l'armée fédérale aux forces de la région dissidente du Tigré, après un week-end marqué par une dangereuse escalade. À la tête de cette région du nord de l'Éthiopie, le TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré, a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, capitale de l'Érythrée voisine, dont elle accuse les autorités de prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen et appelé à des négociations pour que cesse le conflit en cours dans la région du Tigré. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma s'est finalement présenté ce matin devant une commission d'enquête anticorruption, demandant formellement que son président Raymond Zondo se récuse. L'ancien chef d'État a droit à un juge impartial, a plaidé son avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a entamé une nouvelle tournée internationale. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le chef de l'État français a rencontré le secrétaire d'État en fin de matinée à l'Élysée à l'abri des caméras et des micros. Même chose pour le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui s'est entretenu avec son homologue américain juste avant. L'exécutif français a souligné avoir reçu Mike Pompeo à sa propre demande, en toute transparence avec l'équipe du président élu Joe Biden. Il était normal et respectueux des institutions américaines qu'il soit reçu. Le mandat de Donald Trump courant jusqu'au 20 janvier a relevé une source diplomatique française, sans autre précision. Le président Macron a été parmi les premiers à féliciter le démocrate pour son élection aux États-Unis avant de s'entretenir au téléphone avec lui. Et ce, alors même que le président sortant Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, plus d'une semaine après l'annonce des résultats. « J'ai gagné l'élection », a-t-il encore tweeté dans la nuit de dimanche à lundi. Mike Pompeo a lui-même, avant de s'envoler pour une tournée en Europe et au Moyen-Orient, dont Paris était la première étape, refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. « Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump », a-t-il dit, avant de critiquer les dirigeants étrangers qui ont déjà pris contact avec Joe Biden.
Les discussions entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit ont repris ce matin à Bruxelles sous la pression du calendrier qui suscite des doutes sur les chances de parvenir à un accord dans les temps. Lutte contre le Covid-19, l'on se rapproche de la mise au point d'un vaccin. La société américaine Moderna affirme que son vaccin a prouvé une efficacité de 94,5%. Pendant ce temps, la pandémie progresse dans le monde. Mohamedou Oumfa fait le point.
Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin était efficace à 94,5%. Ce résultat découle d'une étude préliminaire en cours sur 30 000 personnes aux États-Unis. En observant un premier groupe de 95 personnes symptomatiques, les chercheurs ont constaté que 90 des participants venaient du groupe placebo, c'est-à-dire ceux qui n'avaient reçu aucun vaccin actif, contre 5 dans le groupe vacciné. On ignore encore la durée de la protection conférée par le vaccin, mais si ce niveau d'efficacité était le même dans la population générale, ce serait l'un des vaccins les plus efficaces qui existent. Moderna demandera une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines aux États-Unis où la production a déjà commencé. Pendant ce temps, les cas confirmés de COVID-19 progressent dans le monde. Le dernier bilan de l'université Johns Hopkins fait état de 54,5 millions de personnes contaminées depuis la découverte du virus et plus de 1,3 million de morts. Des mesures de restriction anti-COVID se multiplient en Europe. Pour la première fois, la Suède, qui mène une stratégie moins stricte que la plupart des pays européens, a annoncé limiter les rassemblements publics à 8 personnes maximum.
L'ouragan Iota, qui se rapproche des côtes de l'Amérique centrale, s'est renforcé en catégorie 5 sur une échelle de 5, devenant extrêmement dangereux. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Centre national américain des ouragans, basé à Miami. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le prix du passeport biométrique, considéré comme l'un des plus chers au monde, va diminuer de moitié. Les ministres des Affaires étrangères et des Finances, Maritumba Nzenza et José Sélé Yalagouli, ont signé un arrêté interministériel fixant le nouveau prix à l'équivalent de 99 dollars, soit 50 dollars pour l'autorité contractante et 49 pour le titulaire. Fourni par une entreprise belge depuis 2015, le passeport se vendait à 185 dollars. Le contrat controversé avec Semlex n'a pas été renouvelé à son terme en juin dernier. Selon les travaux du groupe d'études sur l'évaluation de la dette intérieure du Gabon, environ 440 milliards de francs CFA n'ont pas pu être justifiés sur le stock de 650 milliards d'engagements de l'État audité. Le porte-parole de la présidence, Jesse Ella Ekoga, a indiqué que plusieurs cadres de l'administration publique sont visés pour corruption et complicité avec certains opérateurs. Mis en place par décret présidentiel le 20 juin, le groupe de travail sur la dette intérieure a audité plus de 500 entreprises. Les opportunités économiques en Afrique étaient sur une trajectoire positive de progrès constant, mais l'impact du coronavirus menace ce qui a été accompli, selon l'indice de la Fondation Mo Ibrahim publié ce lundi.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021, reportés à 2022, ont commencé sur le continent. L'Eswatini a tenu en échec ce soir le Congo 0-0. Même score entre le Burkina Faso et le Malawi. 4-2 pour l'Afrique du Sud qui s'est déplacée à Sao Tomé et Principe. 1-0 pour le Soudan qui a reçu l'Ouganda. Les Zimbabwéens ont tenu en échec les champions d'Afrique algériens 2-2. Le Sénégal est la première nation à se qualifier sur le terrain pour cette CAN prévue au Cameroun. En venant à bout de la Guinée-Bissau sur le score 1-0, le Sénégal reste en tête du groupe I avec un parcours sans faute jusque-là. Depuis Dakar, la correspondance de Sedina Bagui.
4 matchs, 4 victoires, 9 buts marqués pour 1 encaissé. L'équipe nationale du Sénégal a confirmé sa supériorité dans son groupe en battant la Guinée-Bissau chez elle. Les Lions ont une nouvelle fois pu compter sur le talent de Sadio Mané, auteur de l'unique but du match à la 82e minute de jeu. Un but synonyme de victoire qui ouvre la porte de la CAN 2021 au Sénégal. En plus d'offrir la qualification aux Lions, ce but permet à Sadio Mané de rejoindre El Hadji Ousseynou Diouf à la 2e place. C'est des meilleurs buteurs de l'équipe nationale du Sénégal. La star de Liverpool est maintenant à la chasse du record de Henri Camara, meilleur buteur de l'histoire des Lions, avec 31 réalisations sous le maillot national. En attendant que ce record tombe, les supporters et les observateurs aimeraient voir les Lions pratiquer un football moins laborieux, car après la défaite face au Maroc en match amical, la double confrontation face à la Guinée-Bissau n'est pas vraiment parvenue à les rassurer en termes de qualité de jeu. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Le Mali ne s'est pas encore qualifié, mais a remporté les 3 points à domicile 1-0. À l'issue de son match face à la Namibie vendredi dernier, pour le sélectionneur des Aigles, son équipe doit encore fournir beaucoup d'efforts, Mohamed Magasouba.
Nous attendons à un match très difficile, mais il faut aussi reconnaître que notre jeu est basé au sol, mais avec un terrain très crasseux et très gras comme ça. Et croyez-moi que les enfants ont mis toutes les peines du monde pour pouvoir s'exprimer correctement comme on le voulait.
Mohamed Magasouba, sélectionneur du Mali pour la manche retour, ce sera demain mardi à Windhoek en Namibie. À suivre aussi demain entre autres Éthiopie, Niger, Lesotho, Bénin, Madagascar, Côte d'Ivoire, Soudan, Ghana, Angola, RDC, Centrafrique, Maroc, Togo, Égypte ou encore Sierra Leone, Nigeria. Justement, l'ancien joueur de football de l'équipe nationale nigériane, Christian Obodo, a été enlevé dimanche à Warri dans l'état du Delta par des inconnus armés. Obodo avait déjà été enlevé dans la même région en 2012. L'ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017 après une dernière pige en Grèce à Apollon Smyrnis.
Merci Akuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. La campagne électorale en vue des élections du 22 novembre prochain au Burkina Faso se poursuit. Une campagne qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile. Ils sont 13 candidats à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Les populations ont du mal à suivre les programmes des candidats. Les analystes pensent qu'on pourrait justement assister à une abstention assez importante lors de ces scrutins du 22. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Quelques deux semaines après l'ouverture de la campagne électorale, les populations ont fini d'écouter l'ensemble des 13 candidats à la présidentielle et des candidats aux législatives.
Roch, j'aurais mieux espéré qu'il fasse mieux parce qu'il a toujours été là au pouvoir, même si c'est Blaise qui dirigeait.
Victorien Moule est un électeur.
Lui, il n'est pas vraiment étranger au pouvoir en place. Tayrou Bari, je l'ai suivi depuis 2015. C'est quelqu'un qui a su répondre et il a toujours été direct et cohérent dans tous ses propos par rapport aux autres qui ont promis donner le ciel ou qui ont promis ramener de la mer. C'est des choses qui sont possibles, mais à quand et à quel prix? En ce moment, beaucoup de Burkinabés espèrent que leur quotidien change.
Robert Yameogo mise sur la réélection du président sortant.
Pour moi, parmi les 13 candidats, je pense que c'est le président Roch. Pour le moment, c'est lui, je vois, pour la continuité, à part le terrorisme, qui est l'impact sur le gouvernement du président Roch. Je ne vois pas beaucoup d'inconvénients et je vois beaucoup de choses qu'il a pu réaliser.
Les programmes des candidats ne sont pas accessibles aux populations quant à leur compréhension. Cela aura un impact sur ces élections selon Siaka Koulibaly, analyste politique.
Les programmes, comme d'habitude, restent assez élitistes et formulés d'une manière qui est difficilement appropriable par la plus grande majorité des populations, qui soient analphabètes ou à un niveau d'instruction intermédiaire. Il reste que la plupart des Burkinabés ressent une espèce d'insuffisance de la part de la classe politique en termes de figure qui tranche et qui peut se présenter comme celui qui peut réellement régler les difficultés auxquelles fait face le pays à l'heure actuelle. Si bien qu'on pourrait s'attendre à une abstention assez importante.
Cette campagne se tient dans un contexte sécuritaire tendu. Les élections ne se tiendront pas dans plusieurs communes du pays. La semaine dernière, 14 militaires ont été tués à Tinakoff, dans le Sahel. En pleine campagne, le chauffeur d'un député de la majorité a aussi été tué. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, le gouvernement a validé la semaine dernière en Conseil des ministres un projet de révision de la Constitution, une modification de la loi fondamentale pour tenir compte des résolutions issues du deuxième forum national inclusif tenu à N'Djamena en octobre dernier. Celle-ci prévoit, entre autres, la création d'un poste de vice-président et l'instauration d'un parlement bicaméral. Mais le projet n'est pas approuvé par tous les acteurs politiques. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Selon le projet de loi constitutionnelle, le vice-président sera nommé et révoqué par le président de la République. Il aidera le chef de l'État dans ses responsabilités et fonctions en cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire. Une initiative qui va supprimer définitivement la primature.
Nous avons défendu les principes de la vice-présidence parce que c'est logique avec la 4e République. Si vous mettez un premier, ça veut dire que vous remettez en cause la 4e République et vous revenez à une autre République qui est parlementariste.
Abdraman Jasnaba est coordonnateur de la majorité présidentielle. En cas de vacance de poste ou d'empêchement définitif, les attributions du chef de l'État sont provisoirement exercées par le vice-président. Il procédera à de nouvelles élections présidentielles 45 jours au moins et 90 jours au plus. Dr Nasra Djimasengar, secrétaire général du parti Un Nouveau Jour, a déclaré que l'opposition est mise en minorité dans ce débat.
On avait marqué notre opposition catégorique parce que c'est un poste qui va diviser les Tchadiens.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mohamed Hassan, il faut expérimenter cette forme de l'État avant de juger.
C'est une première expérience pour le Tchad depuis son indépendance. En 2018, c'était le système de la présidence intégrale, mais maintenant, l'intégralité se limite et le Parlement est secondé d'une chambre haute, le Sénat. Donc, c'est de répondre à des réalités politiques du pays dans la recherche de la stabilité, du vivre ensemble.
Pour beaucoup d'observateurs, la création du Sénat en lui-même n'est pas mauvaise en soi, puisqu'il jouera le rôle de négociateur pour des intérêts locaux entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Par contre, la création du poste de vice-président relève d'un calcul politique.
Le président actuel ouvre une possible succession par voie constitutionnelle des dauphins qu'il aura choisis pour pérenniser son régime.
Dr Joyang Dibam, publiciste et consultant indépendant, pour lui, deux scénarios sont envisageables.
Le premier scénario, c'est que en plein milieu d'un mandat présidentiel, le président peut décider de se retirer pour se faire remplacer à la tête de l'État par un vice-président dauphin. Le second scénario, c'est que le président peut décider de ne plus se représenter à l'élection présidentielle, pas en avril 2021, peut-être au prochain scrutin, d'investir un vice-président dauphin qui portera les couleurs du parti au pouvoir.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mohamed Hassan, ce genre d'analyse semble être assez courte et sans fondement.
Si le président aurait l'intention de transformer la forme républicaine de l'État en monarchie ou toute autre forme, il n'aurait pas accepté qu'il y ait une répartition des pouvoirs entre le président et un vice-président. C'est plutôt le contraire. C'est vrai, certains pays l'ont expérimenté comme la Côte d'Ivoire ou le Kenya, où ça n'a pas marché. Mais le Tchad a son propre contexte.
Si ce projet de loi constitutionnelle validé par le Conseil des ministres et adopté par l'Assemblée nationale, c'est pour la troisième fois consécutive que la loi fondamentale sera modifiée en 30 ans de pouvoir de débit. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, 4 personnes ont été placées sous mandat de dépôt le 28 octobre 2020 par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Tobognon. Il aurait reproché l'escroquerie via Internet, la fraude fiscale, le transport en contrebande des produits et le blanchiment de capitaux. Les personnes incarcérées se présentent aux populations comme des responsables de structures d'opportunités d'affaires, du marketing relationnel et de l'e-commerce. Une arrestation qui remet sur le tapis l'épineuse question de la fiabilité du marketing de réseau et de l'e-commerce au Bénin. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le marketing relationnel ou marketing de réseau est présenté par les uns comme le système le plus adéquat au XXIe siècle pour gagner de l'argent. Tout commence généralement par une approche amicale, une idée vendue comme étant révolutionnaire et vous voici embarqué pour une destination inconnue. Pas si inconnue, répond Emma Sronton qui confie avoir fait fortune juste avec son smartphone.
Le numérique présente vraiment une très grosse opportunité, une opportunité qui n'avait jamais existé pour un jeune Africain avant. Et il est temps que les jeunes Africains le sachent et saisissent cette opportunité pour assurer leur avenir et pour améliorer aussi l'avenir du Bénin.
Le principe premier du système est de côtoyer la richesse en un temps record juste en faisant des placements intelligents. Pour Anilo Medigan-Fagla, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est parfois du rêve qui est vendu.
Vous n'avez aucune condition générale de vente, vous n'avez pas de protection de la vie privée, vous n'avez aucune politique d'échange de remboursement. Donc en une fois, je place disons 500 000 et tous les ans ça me rapporte 1 500 000. Donc 300% de bénéfices sans même placement d'argent, c'est pas possible. Il n'y a pas de système économique aujourd'hui qui fonctionne aussi magiquement. Et c'est ça que j'aimerais que les usagers de l'Internet comprennent. Il n'y a pas de magie.
Le marketing de réseau est perçu par beaucoup de Béninois comme un système parallèle à la pyramide de Ponzi où les nouveaux sont grugés par les plus anciens qui sont en réalité les plus grands profiteurs jusqu'au jour où le système devient saturé. Beaucoup s'y sont aventurés et en ressortent découragés, amers contre ce type de marketing ou même le e-commerce où ils ont payé des produits sans jamais les recevoir. Quelques-uns expliquent.
Ce n'est pas une bonne activité parce que ça a un impact négatif sur les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, notamment sur le plan économique. Parce que si quelqu'un vient, il a des risques de se faire arnaquer, de se faire pirater, et ainsi de suite. Il sera peu enclin à vouloir investir, à vouloir s'installer ici.
Tu ne peux pas me dire de t'envoyer 1 million dans ton compte et tu vas m'envoyer 4 millions et je vais l'envoyer si je ne suis pas un voleur ou un criminel comme toi.
Pour Epiphane Dalokono, responsable au Bénin d'une forme de marketing de réseau, ne pas tomber sur le bon n'est pas la preuve que tout est mauvais.
Ceux qui s'engagent dans le marketing de réseau aussi, la majorité ne savent pas ce qu'ils ont en main. Dans le jargon classique, les gens disent la chaîne pyramidale. Nous savons que on prend l'argent de quelqu'un pour payer quelqu'un, on prend l'argent de l'autre pour payer l'autre, et donc à un moment ça va se bloquer. Le marketing de réseau, le vrai, existe.
Les Béninois, dans leur majorité, voient à travers le marketing de réseau un système d'arnaque bien plus performant que l'affaire ICC Service, qui a explosé il y a quelques années et qui a appauvri des milliers de personnes. Les autorités appellent à la retenue et à la vigilance. De Cotonou, Ginette Loadonné pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue de s'accroître ici aux États-Unis, l'équipe de l'ancien vice-président Joe Biden, vainqueur projeté de la présidentielle 2020, demande à l'administration Trump d'amorcer le processus de transition cette semaine pour aider le pays. Michel Quinn fait le point. Le récit est de Lionel Gaïman.
La nouvelle flambée d'infection au nouveau coronavirus s'observe dans toutes les régions des États-Unis. Toutefois, la pandémie est prise dans un bras de fer politique. En effet, on attend toujours de savoir si le président Donald Trump permettra à son administration de collaborer avec l'équipe du président élu Joe Biden, dont l'investiture doit avoir lieu le 20 janvier. Toutefois, Trump continue de dénoncer sans preuve une fraude électorale généralisée lors de la présidentielle. Pour l'équipe Biden, le manque de coopération du chef de l'exécutif américain met le pays en danger en pleine intensification de la pandémie du Covid-19. Le docteur Atul Gawande fait partie du conseil consultatif de Biden.
Il est dans l'intérêt de notre nation que l'équipe de transition obtienne les évaluations de la menace, que l'équipe prenne connaissance des plans de distribution des vaccins, des stocks et de la situation concernant les masques et les gants. Beaucoup d'informations ont besoin d'être transférées. Cela ne peut attendre jusqu'à la dernière minute.
Selon le quotidien Washington Post, cela fait 5 mois que le président Trump n'a pas pris part aux réunions de son groupe de travail sur le Covid-19. Il s'est toutefois exprimé la semaine dernière sur le calendrier de livraison d'un vaccin contre la pandémie.
Ce processus commence immédiatement. Des millions de doses seront bientôt en voie de distribution. Elles seront prêtes, attendant l'approbation finale.
Les informations sur les efforts de l'administration Trump contre la pandémie sont largement partagées avec le public et l'équipe de Biden, assure l'amiral Greg Giroir, membre du groupe de travail de la Maison-Blanche sur le Covid-19.
Je veux être aussi transparent que possible avec tout le monde. Il ne s'agit pas d'un problème politique. Il s'agit d'un problème de santé publique et de sauver les vies des Américains. Il n'y a rien de plus important que cela.
Pour sa part, l'ancien conseiller de la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, appelle les leaders républicains à pousser la Maison-Blanche à partager avec l'équipe Biden les informations sur le virus et la sécurité nationale.
Et encore une fois, je pense qu'il est nécessaire pour les Républicains d'expliquer que c'est l'ordre des choses que nous ayons une transition et nous devons l'amorcer le plus tôt possible.
Selon l'université Johns Hopkins, les États-Unis continuent d'être le pays le plus affecté de la pandémie au monde, avec plus de 11 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 246 000 morts.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joël Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïmard et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.